Le journal des sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, l'accord de Paris sur le climat cette semaine à l'ONU va être bientôt validé, Xavier.
En effet, ce sont 31 pays qui viennent de s'ajouter mercredi dernier à ceux qui l'avaient déjà ratifié. Ils sont donc 60 en tout, 5 de plus que les 55 nécessaires, et tous les continents sont représentés. Outre la Chine et les États-Unis la semaine dernière, il y a certains pays importants, des pays émergents comme le Brésil, le Mexique, Singapour ou les Émirats Arabes Unis, ce qui fait qu'une partie de la presse et certains dirigeants s'enthousiasment et voient déjà une conclusion du processus avant la COP22 de novembre au Maroc. Cependant, sur le plan diplomatique d'abord, ce n'est pas joué, manque l'Europe notamment, et outre ces 55 pays, il faut aussi qu'ils représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre. Là, avec à peine 48%, ce n'est pas encore le cas. Donc toute l'efficacité climatique de l'accord dépendra ensuite des contributions des États pour atteindre l'objectif de 2 degrés maximum de hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Bref, ces ratifications sont une bonne nouvelle, mais l'accord est encore lacunaire. C'est ce qu'explique l'auteur de « Gouverner le climat » aux presses de Sciences Po, le politiste Stéphane Écoute.
Si on les additionne toutes, on parle de 15 à 17 gigatonnes. C'est à peu près un tiers des émissions d'aujourd'hui qui sont de trop. Ça veut dire qu'il faut trouver des réductions supplémentaires à ce qu'ont annoncé les États jusqu'ici. Et donc, après l'entrée en vigueur du traité, ça sera ça, le débat qui sera vraiment le débat crucial pour le succès environnemental de cet accord. Et donc, c'est très important que des pays comme le Brésil, comme le Mexique, comme aussi la Chine, bien évidemment, comme l'Inde, qu'on attend encore, fassent des efforts et soient prêts à montrer le chemin. Après, bien évidemment, ce qu'attendent ces pays, et notamment pour l'Inde, ça sera un point très important, c'est que les pays développés, finalement, les aident financièrement pour développer des énergies propres, des énergies renouvelables, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'accord de Paris prévoit, mais où il donne très peu de détails.
Et ceci, Xavier, alors que la planète vit l'année la plus chaude enregistrée depuis 137 ans.
Et oui, 14,1 degrés de température moyenne pour les terres et les océans. C'est un record de chaleur aussi pour le 16e mois consécutif. En Asie et en Afrique, jamais les températures n'avaient été aussi élevées depuis plus d'un siècle qu'on les note. Il y a donc toujours la même inquiétude pour les conséquences du réchauffement sur terre ou sur les mers. Deux études encore cette semaine sur les banquises et les calottes glaciaires. Du coup, une partie des chercheurs du GIEC, le groupe de scientifiques qui conseille l'ONU, était cette semaine à Oxford à l'initiative de certains pays. Il prépare d'abord un rapport pour 2018. Écoutez la climatologue Valérie Masson-Delmotte, c'est la coprésidente du premier groupe de travail du GIEC.
On travaille pour affiner quelles peuvent être ses conséquences, à la fois en fonction de l'amplitude de réchauffement. Donc aujourd'hui, on est autour de 1 degré de réchauffement depuis 1900, pour 1,5 degré, pour 2 degrés, mais aussi en fonction de la vitesse du changement. Et donc, on voit émerger un certain nombre de travaux sur ces aspects-là. Par exemple, le risque de sécheresse autour de la Méditerranée pourrait doubler entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. On a par exemple une étude d'ensemble conduite par un collègue français, Jean-Pierre Gattuso, qui a montré des risques importants pour un certain nombre d'écosystèmes marins, largement en dessous de 2 degrés de réchauffement. Par exemple, pour les récifs de coraux d'eau chaude, pour les bivalves, pour un certain nombre d'espèces de poissons qui font l'objet de l'aquaculture. Donc on voit émerger des connaissances de plus en plus fines, plus abouties, que ce qui n'était disponible simplement il y a 4 ou 5 ans.
Voilà, donc premier rapport préliminaire sur le climat en 2018, deuxième en 2023. Entre-temps, d'ici 2020, on devrait avoir vu les premières contributions financières.
Par ailleurs, Xavier, des scientifiques américains critiquent les positions de Donald Trump sur le climat.
Oui, 375 savants, directeurs d'instituts ou chercheurs, dont 30 prix Nobel quand même, auxquels s'ajoutent d'autres figures, comme l'astrophysicien britannique Stephen Hawking. Il reproche donc à Donald Trump ses prises de position sur l'accord de Paris cette année en mai, lui qui a menacé, s'il était élu, de l'annuler au titre qu'il allait tuer l'emploi américain. Les scientifiques affirment que les États-Unis ont un rôle moteur à jouer et à défaut d'être entendus, les chercheurs inventent et mettent en garde contre un futur Brexit.
En bref maintenant, Xavier, la médaille d'or du CNRS remise hier à une femme.
Oui, c'est une femme, la mathématicienne Claire Voisin, 54 ans, et c'est une récompense pour elle qui vient s'ajouter à pas moins de 8 prix depuis 1988, presque un couronnement, donc l'année où elle est la première mathématicienne à occuper aussi la chaire de géométrie algébrique du Collège de France. C'est donc aussi un témoignage de l'intérêt porté à ses travaux qui portent sur certains des problèmes majeurs des mathématiques contemporaines, ce qu'on appelle parmi les 7 problèmes du millénaire, qui sont liés à l'émergence l'émergence d'une géométrie de plus en plus complexe et à son exploration. C'est ce qu'on appelle notamment la topologie en mathématiques, et je laisse parler Claire Voisin. Topologiquement parlant, une sphère et la surface d'une pyramide sont identiques, même si dire de pareilles choses est une aberration du point de vue de la géométrie algébrique.
Vous avez 3 heures, prenez vos copies, on vous interroge à la fin du journal des sciences. En bref, également, autre remise des prix. En attendant, les Nobel sont décernés chaque année, Xavier, les Ig Nobel de palmarès.
Les Ig Nobel, la 26e édition pour ce prix remis à Harvard, a un préfixe en Ig qui renvoie non pas à des travaux scientifiques ignobles, mais des travaux scientifiques réels et officiels, mais ignorés et qui auraient pu mériter une sorte de prix Nobel, 10 prix en fait, pour des disciplines qui vont de la reproduction sexuelle à la paix, en passant par la chimie ou la perception. Par exemple, parmi les vainqueurs de cette année, on relève un Égyptien qui étudie l'effet des différents vêtements en textile sur l'activité sexuelle des rats ou des humains, ou encore un Ig Nobel de la paix pour un travail, je cite, sur la réception et la détection des bêtises pseudo-profondes.
On reprend un peu de sérieux. Deuxième sujet du jour, Xavier, c'est ce livre blanc pour les sciences du vivant au XXIe siècle qui a été présenté hier aux députés à l'Assemblée nationale.
Oui, présenté par le CNRS, mais aussi le CEA et puis l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Un livre blanc qui se veut d'abord un recensement de travaux de chercheurs et une mise à jour des connaissances que la biologie peut présenter au public. Et ceci après des années d'importantes découvertes qui viennent à la fois augmenter et troubler la compréhension de la vie. Une des plus connues et des plus anciennes dans ce domaine, on pourrait dire, et la molécule d'ARN qui sert à la fois dans les interactions du cerveau mais dans d'autres réactions organiques. Écoutez, Catherine Jessus, c'est la directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS et elle est à l'initiative de ce livre blanc.
Il y a notamment celui de l'immensité de la biodiversité qu'on n'avait pas soupçonné et de la manière dont la vie a colonisé des milieux extrêmes dont on ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient habités. Et ça, ça renvoie à des vieilles questions sur les origines de la vie sur Terre, et ça nous donne aussi un fil pour la quête de la vie sur d'autres planètes. Il y a l'hérédité. Par derrière, il y a l'épigénétique, bien sûr, qui est un champ déjà bien amorcé depuis une vingtaine d'années, mais qui n'en est, je pense, qu'à ses prémices. Il y a un champ vraiment important qui est le cerveau humain, qui est sûrement l'organe le plus fascinant d'un point de vue de la cognition, où on pénètre, à cause d'avancées technologiques comme l'imagerie notamment et l'imagerie non-invasive, toute la biologie qui sous-tend les opérations mentales de l'être humain, c'est un champ qui est en révolution.
Voilà, en révolution, et pourtant, Xavier, depuis le début des années 2000, la France a perdu des places dans la recherche internationale.
C'est ce que montrait là un précédent rapport du CNRS sur le financement de la recherche et de l'emploi scientifique en 2014. En effet, entre 2002 et 2012, la France était déclassée à la 20e position en ce qui concernait la recherche fondamentale. Alors cette année, après un début de mobilisation des chercheurs au printemps, le gouvernement a bien sanctuarisé les budgets scientifiques. Il les a sanctuarisés encore, mais un budget maintenu, c'est un budget contraint. C'est ce que déplore le président du CNRS, Alain Fuchs, en période préélectorale. En effet, ce livre blanc est aussi un appel au monde politique.
On ne pourra pas continuer comme cela pendant très longtemps, sans risque de décrochage de la science française en général vis-à-vis de ce très grand mouvement international, mondial, de la science, où on a vu ces dernières décennies émerger de nouveaux joueurs. Ça, c'est la grande nouveauté. La science, pendant très longtemps, la science moderne, ça a été l'Europe, qui est le berceau de la science moderne, et puis les États-Unis, le Japon, la Russie, voilà. Et aujourd'hui, on a ces nouveaux joueurs, très actifs, très compétitifs, la Chine bien sûr, mais aussi Singapour, bon, beaucoup de pays d'Asie, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Voilà, donc dans cette grande circulation des cerveaux et des idées à laquelle nous participons aujourd'hui, dans une compétition acharnée qui n'est pas toujours facile, je plaide simplement pour que la science française ne se transforme pas progressivement en spectateur de la science mondiale, mais reste un acteur.
Le président du CNRS, Alain Fuchs. Pour conclure, Xavier, les chercheurs vont peut-être résoudre un des plus importants problèmes de comptoir, c'est notre brève d'improbabologie, c'est toujours difficile à dire.
Oui, là c'est une étude assez improbable publiée par 2 chercheurs de Stanford dans la Physics Review Fluids. En fait, ils s'occupent de dynamique des fluides et dont le titre laisse songeur, en effet, arrêter l'instabilité de Marangoni. En fait, c'est une étude qui montre pour la première fois la maîtrise d'un effet, donc l'effet de Marangoni, qui est souvent observé dans la formation de mousse à la surface d'un liquide, par exemple des bulles de savon à la la surface de l'eau. Mais jusqu'ici, il n'était pas reproductible. En fait, tout vient des tensions différentes qui sont générées dans le même liquide. L'effet Marangoni lui exprime cette instabilité. Il repousse les molécules des zones de haute tension vers celles de plus basse tension et permet ainsi à une enveloppe de résister à une rupture mécanique. Il produit par exemple aussi les larmes du vin. Alors dans l'industrie, on utilise déjà cette propriété des liquides dans l'industrie électronique, dans la pétrochimie, le médicament, certains travaux de soudage. Mais cette fois, les chercheurs ont réussi à contrer l'instabilité d'origine en provoquant un deuxième effet Marangoni qui stabilise le fluide, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'au septième. Ainsi, le résultat filmé à la surface de l'eau est une sorte de vitrail kaléidoscopique très régulier. C'est donc un pas vers sa maîtrise complète et on pourrait donc à terme stabiliser complètement la mousse à la surface d'un demi de bière.
Voilà, grâce à la méthode scientifique Xavier Martinet, vous pouvez avoir l'air intelligent à l'heure de l'apéro le vendredi soir et ça n'est pas rien. Un tout dernier mot, Xavier, il faut suivre une information qui devrait être dévoilée par la NASA lundi.
Oui, à 20h heure de Paris, elle devrait annoncer une découverte qualifiée d'activité surprenante observée par le télescope Hubble sur Europe, qui est un des satellites de la planète Jupiter. Alors on savait déjà qu'il y avait une sorte d'océan sous sa surface, et bien la suite c'est lundi.
Peut-être, qui sait, de la vie dans notre système solaire.